Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien du club Hygène. Microsoft a trouvé le moyen d'adapter les e-messages d'Apple sur Windows. Bon, ça reste assez limité, mais Apple risque de ne pas trop apprécier. Dans le Flash Info, on va aussi faire le point sur ce qui nous attend dans les prochains jours dans l'actualité d'Apple. Ça s'annonce riche. En deuxième partie d'émission, on va essayer d'éviter l'aspirine au petit matin avec Nicolas, qui va nous parler de Matter. Oui, le fameux protocole domotique qui est censé tous les remplacer. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Nous sommes le lundi 27 mars. Voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. On ne sait pas trop comment Microsoft s'est débrouillé, mais toujours est-il qu'il va être bientôt possible de recevoir et d'envoyer des e-messages sur Windows. Les e-messages, ce sont les SMS version Apple. Ils moulinent sur les serveurs du constructeur, ce qui leur permet au passage de bénéficier du chiffrement de bout en bout et aussi de fonctions que n'ont pas les SMS, comme les réactions en emoji ou des effets d'animation. Mais le problème, c'est que les e-messages ne peuvent s'échanger qu'entre des utilisateurs de produits Apple, ce sont les fameuses bulles bleues. Le reste du monde doit se contenter de bulles vertes. Microsoft a donc trouvé le moyen de rendre Windows compatible avec les e-messages avec son application PhoneLink. Alors le fonctionnement de ce logiciel nécessite un jumelage entre l'iPhone et le PC, mais une fois que c'est fait, on peut répondre à un e-message et on peut en envoyer un sur Windows, ce qui évite de sortir l'iPhone à tout bout de champ. Par contre, les fonctions sont encore très limitées, les conversations de groupe ne sont pas supportées et l'historique est supprimé à chaque fois qu'on quitte le logiciel ou qu'on éteint l'ordinateur. PhoneLink n'est pas encore proposé à tous les utilisateurs de Windows, mais ça ne devrait pas tarder. On ne sait pas trop ce qu'en pense Apple, mais ce logiciel ne doit pas trop faire plaisir du côté de Cupertino. L'application TikTok n'est plus en odeur de sainteté nulle part. En France, les fonctionnaires doivent la supprimer de leur smartphone professionnel pour des raisons de sécurité. C'est le cas aussi dans plusieurs institutions en Europe, à commencer par la Commission européenne, mais également au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis. Alors ça ne veut pas dire que TikTok soit interdit pour les utilisateurs lambda, ça ne concerne que des agents publics. Mais l'application file un tel mauvais coton qu'un bannissement pur et simple est en discussion aux États-Unis. Ça voudrait dire que l'app ne serait plus du tout disponible dans l'App Store et le Play Store de Google. Dans tous les cas, le problème est le même. Ce sont les liens entre TikTok et le gouvernement chinois qui sont en cause. Pékin peut avoir accès aux données des utilisateurs puisque l'app est éditée par ByteDance, une entreprise chinoise. Il y a beaucoup de pression des autorités américaines pour défaire ce lien, mais c'est devenu une nouvelle pomme de discorde très politique avec la Chine. On n'a pas fini d'en entendre parler. On peut demander n'importe quoi à ChatGPT, qui peut aussi répondre n'importe quoi des fois. Mais sur les sujets d'actualité, il n'est pas très fortiche. Et pour une bonne raison, les connaissances du bot ne vont pas plus loin que 2021. Pour remédier à ce problème, OpenAI a lancé un système de plugins. Des extensions qui pourront s'intégrer dans des sites web, comme par exemple Variety ou Box Office Mojo. Ça permettra à ChatGPT de répondre plus facilement aux questions liées au cinéma. L'idée, c'est de donner au bot un moyen de sonder les profondeurs du web pour être plus précis. OpenAI a aussi signé des partenariats avec plusieurs sites et services commerciaux comme Expedia et Kayak. En toile de fond, il y a la question de la publicité qui va se poser, mais pour le moment, il s'agit surtout de renforcer les capacités de ChatGPT. Ces extensions sont également un moyen de garder un train d'avance sur la concurrence, tout particulièrement celle de Google qui a lancé son propre bot la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est lundi comme vous le savez, et en plus c'est le matin, alors je comprends que ce soit pas la joie. Mais sachez que la semaine qui s'annonce va être riche en actu Apple. On s'attend en effet à une nouvelle fournée d'emojis avec les versions finales d'iOS 16.4 et macOS 13.3. Et ça, c'est suffisant pour redonner le sourire à n'importe qui. Demain, mardi, ce sera aussi un grand jour pour les amateurs de musique classique avec le lancement d'Apple Music Classical. Anthony est sur le pied de guerre, il va nous préparer un aperçu de ce nouveau service assez prometteur, alors restez à l'écoute. Apple pourrait aussi lancer dans les tout prochains jours quelque chose en lien avec les AirPods. Peut-être bien un boîtier pour AirPods Pro qui remplacerait le port Lightning par de l'USB-C. Et puis on s'attend aussi à l'annonce de la WWDC. L'événement est généralement organisé en juin, mais Apple lance habituellement les hostilités 2 mois plus tôt, histoire de préparer les esprits et les développeurs. Oui, je sais, c'est le matin. Et le matin, ce n'est jamais le bon moment pour parler des sujets qui fâchent, mais il fallait bien à un moment donné qu'on aborde la question de la domotique. Et plus particulièrement Matter, ce protocole censé remplacer tous les autres protocoles de domotique, histoire de faciliter la vie des utilisateurs. Mais comme va nous le dire Nicolas, le diable se cache dans les détails et les choses sont plus compliquées qu'il y paraît. Salut Nicolas.
Salut Mickaël, salut tout le monde.
Tout le monde a mis du sien pour créer Matter, et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde, puisqu'on y retrouve Apple, Google, Amazon et tous les grands noms du secteur. Tout ça part d'un bon sentiment, vu que l'idée c'est de faire en sorte que tous les produits domotiques puissent fonctionner sur tous les appareils. Et ce qui est intéressant, c'est que ce protocole est basé sur HomeKit en fait.
En effet, alors tous les gros acteurs s'y sont mis cette fois. À l'origine, donc ça c'était fin 2019, le projet se nommait Chip. Ouais. Pour Connected Home Over IP, donc la maison connectée avec des adresses IP, on pourrait traduire ça comme ça. L'idée, c'était de créer une couche logicielle, un standard qui soit interopérable, que tout le monde puisse utiliser. Et cette couche, elle devait permettre à tous les accessoires de domotique sur le marché de communiquer entre eux, quel que soit le fabricant, et sans être limité par un écosystème existant. Donc le projet a été renommé Matter courant 2021, et on a enfin eu une première version finalisée à l'automne 2022, donc il y a quelques mois. Comme tu disais, Apple a joué un grand rôle dans ce projet puisque l'entreprise en fait a tout simplement donné HomeKit qui est devenu les fondations de Matter en quelque sorte. Et d'ailleurs, si vous avez utilisé l'écosystème de la pomme, vous ne serez pas dépaysé avec les produits Matter parce qu'on retrouvera le même code QR sur une étiquette collée sur les produits, le même processus d'ajout sous iOS et les accessoires Matter seront intégrés directement dans l'app maison comme ceux de HomeKit. Pour, à bien des égards, en fait, pour nous, utilisateurs d'Apple, ça ne changera pas grand-chose. Par ailleurs, un autre point important, ça, le fonctionnement est identique sous le capot, notamment avec une gestion en local des commandes, c'est-à-dire qu'on ne passe pas par un serveur distant, donc ce qui a toujours été le cas de HomeKit, mais ce qui n'était pas le cas, par exemple, dans l'univers d'Alexa, c'est jamais comme ça que ça fonctionne. Donc HomeKit sert bien de fondation, par contre on peut quand même dire tout de suite que Matter va évoluer indépendamment maintenant, c'est l'idée. En particulier, ces concepteurs pensent ajouter régulièrement des nouvelles catégories d'appareils. Alors à titre d'exemple, la prochaine mise à jour est prévue dans les prochaines semaines, en printemps 2023, et elle devrait ajouter les électroménagers, donc on aura enfin des frigos Matter, et les aspirateurs robots. C'est important. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce sont deux catégories qu'Apple n'a jamais pris en charge avec HomeKit et qu'on pourra avoir dans l'app maison avec Matter. Et ça va devenir de plus en plus courant, en fait. Ils comptent couvrir tous les domaines, tous les appareils connectés seront un jour compatibles Matter.
Alors, tout ça donne envie, mais il arrive quand, ce paradis de la domotique, alors ?
Alors, Matter, c'est compliqué. On le répète souvent. Il y a beaucoup de promesses derrière ce protocole, mais ça reste beaucoup des promesses, c'est théorique encore très largement, et en pratique, il y a pas beaucoup de... Enfin, il faut encore être patient, pour faire simple. En particulier, ce qui manque aujourd'hui, le vrai défaut, c'est l'interopérabilité, qui était justement une des plus grosses promesses de Matter. On en est encore loin du compte. Alors, on a pu le tester de notre côté avec une prise connectée Eve. C'est un des premiers appareils qui a été compatible Matter. Et donc, c'est notre collègue Stéphane qui a, après pas mal de boulot, réussi à la connecter à deux écosystèmes de domotique différents. Donc, HomeKit d'un côté et SmartThings, qui est l'ancien écosystème Samsung, donc de l'autre. Donc ça marche, hein, il a réussi à les connecter, il peut contrôler la prise d'un côté ou de l'autre indépendamment, mais c'est assez compliqué d'une part, et surtout il faut encore un pont par écosystème, par exemple dans celui d'Apple il faut un HomePod ou une Apple TV, ce qui limite quand même l'intérêt, et par rapport à la promesse c'est pas génial. Cela dit, pas de panique, ça devrait venir. En fait, il faut patienter, Matter c'est tout neuf. En plus, ils ont été pas mal ralentis avec la pandémie et tout ça. Il y a encore pas mal de trous par rapport à la promesse. Et il faut patienter notamment que le temps que tout le monde se mette à jour. On peut citer un exemple, Amazon gère Matter mais uniquement avec trois catégories de produits seulement. Et son écosystème, donc Alexa, reste entièrement fermé pour l'instant. Mais bon, tout ça, ça va venir.
Alors, le code du protocole est open source, et ça, c'est une bonne nouvelle pour faciliter l'interopérabilité, comme ce qu'on disait tout à l'heure. Mais dans les faits, les constructeurs doivent quand même faire certifier leurs produits, et ça, c'est beaucoup moins évident.
Alors, techniquement, un constructeur n'est pas obligé de certifier ses produits, puisque effectivement, tout est open source. Donc, on peut créer un produit Matter sans certification. Cela dit, c'est comme avec HomeKit, en fait, qui a aussi un processus de certification. Là encore, on voit bien l'influence d'Apple. C'est quand même bien mieux de le faire. ça évite les problèmes, et puis surtout, ça donne le droit, en fait, de mentionner la compatibilité Matter, notamment en utilisant le logo qui, lui, par exemple, est propriétaire. Donc, c'est mieux de le faire. C'est un processus payant. Ça, c'est le gros frein, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir payer ce processus, ça coûte quelques milliers de dollars. Et en plus, il faut respecter un cahier des charges très précis, mais en contrepartie, les créateurs de Matter, en fait, vérifient que tout fonctionne correctement, c'est le principe. Et donc, en fait, ça assure une compatibilité en théorie parfaite, ça devrait rassurer les utilisateurs. Je pense que tout le monde va effectivement se faire certifier.
Alors, imaginons, soyons fous 5 minutes, que je sois un consommateur avide de domotique et que je cherche à m'équiper. Qu'est-ce qui est disponible actuellement? Qu'est-ce que je peux acheter?
Bah rien.
Très bien, ça m'arrange.
Voilà, c'est rapide. C'est un peu l'autre problème de Matter, effectivement, c'est qu'il n'y a pas vraiment de catalogue de produits disponibles à ce jour. Au mieux, on a des mises à jour en bêta qui sont distribuées ici ou là. Donc, on parlait de la prise Eve. Ça reste une bêta encore aujourd'hui. Il y a aussi Akara, par exemple, qui a commencé à déployer. Pareil, c'est qu'une bêta. Chez IKEA, qui est un des gros poids lourds du marché, il y a un nouveau pont de connexion qui est compatible Matter depuis l'automne. Enfin, qui est compatible, qui sera compatible Matter. Mais justement, ce pont n'a pas eu sa mise à jour encore. On l'attend, pas de nouvelles. Et par ailleurs, il y a eu quelques produits nativement Matter, donc qui n'ont pas besoin de mise à jour, qui ont été annoncés. Il y en a même qui ont été apparemment brièvement commercialisés, mais quand j'ai écrit l'article sur le sujet, j'en ai trouvé aucun qui était disponible, en tout cas en Europe. Concrètement, on ne peut pas acheter de produits Matter. Ça, c'est encore quelque chose qui va venir, et sans doute ça va s'accélérer. Je pense que ça va venir de plus en plus maintenant. Par exemple, Nanoleaf vient d'annoncer la commercialisation de ses produits, de ses premiers produits Matter, et je pense que ça va s'accélérer à partir du printemps, là. Il y en a d'autres, on sait qu'ils n'y viendront pas. Alors, un des exemples récents qu'on a eu là, c'est Wemo, donc, qui devait passer à Matter et puis finalement a changé d'avis avec un argument un peu bizarre en disant que ils avaient peur de l'effet d'uniformisation du standard, mais ils vont peut-être se retrouver être les seuls à pas le gérer. Enfin bon, dans l'ensemble, je pense que ça va venir et de plus en plus.
Il y a une espèce de confusion entre Matter et Thread qui sont apparus un peu en même temps dans l'actualité, mais dans les faits, ça n'a pas grand-chose à voir, ça n'a même rien à voir. Un appareil Matter n'est pas forcément compatible avec Thread, et un appareil Thread n'est pas automatiquement compatible Matter.
Oui, c'est vrai qu'on confond souvent les deux. On voit dans les commentaires, il y a souvent des confusions, alors qu'en effet, les deux n'ont pas grand-chose à voir. Ce sont deux standards, deux domotiques, et ils sont ouverts à tout le monde. C'est un peu leur seul point commun. C'est déjà pas mal, mais voilà. Matter, comme je le disais au début, c'est plutôt une partie logicielle qui définit donc le protocole pour que tout le monde puisse communiquer entre eux, etc. Thread, c'est plus du matériel, en fait. C'est un protocole radio qui a été construit sur la même technologie que le Zigbee, qui est utilisé notamment par You, par exemple. On peut dire d'ailleurs que c'est une évolution du Zigbee, même si ce dernier ne disparaît pas. Donc les deux, en fait, vont continuer à exister à l'avenir. Et ils reposent sur le même concept de base qui est bien pratique en domotique, qui est que c'est un réseau maillé étendu par les accessoires eux-mêmes, ce qui veut dire qu'on peut l'étendre, on peut étendre sa portée sans vraiment de limite. Par ailleurs, s'il y a un accessoire qui tombe, qui n'est plus disponible, le réseau lui-même ne tombe pas. Voilà, c'est assez résistant, c'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup en domotique. Il consomme aussi très peu d'énergie, enfin, il a beaucoup d'avantages. Mais donc, comme tu le disais, on peut avoir du Thread sans Matter. D'ailleurs, chez Apple, le Thread est utilisé depuis fin 2020 avec HomeKit, et donc c'était deux ans avant la sortie de Matter. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, on a encore beaucoup de Thread qui fonctionne sans Matter. Dans l'autre sens, on peut faire du Matter sans Thread, il n'y a pas de souci. C'est une des options pour connecter les accessoires. On peut utiliser du Zigbee, on peut même utiliser du Wi-Fi ou de l'Ethernet, peu importe.
Ouf, eh bien, c'était tout simple à comprendre finalement, même pour un matin. Merci d'avoir plongé avec nous dans le monde moyennement merveilleux de la domotique. Salut Nicolas.
Salut Mickaël.
Et quant à nous, eh bien, on se retrouve très bientôt pour de futures aventures.